Bien, alors bonjour, bienvenue à cette entrée libre de jeu. Je me présente Michel Vaïs, rédacteur en chef de la revue Jeu. Donc, ces discussions publiques que nous appelons les entrées libres de jeu ont lieu depuis déjà de nombreuses années. C'est la 55e, en fait, aujourd'hui. Elles font toujours l'objet d'un article dans la revue. Cette fois-ci, ce sera dans un dossier consacré aux comptes et aux compteurs qui va paraître dans notre numéro de juin. Et elles sont aussi enregistrées pour être diffusées sur Internet, sur Radio Spirale. La revue Spirale a un poste de radio sur Internet, donc Radio Spirale. Vous pourrez écouter ça plus tard, évidemment, quand l'article sera déjà paru dans la revue, hein, c'est-à-dire dans quelques mois. Alors, je veux remercier d'abord mes invités d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Donc, Stéphanie Beneteau qui est ici, Jean-Marc Massy, André Lemelin. Et René Robitaille, Stéphanie Beneteau. Ce sont deux personnes que je n'avais pas encore rencontrées personnellement. Alors, je les mélange. Donc, je recommence. René Robitaille, Jean-Marc Massy, Stéphanie Beneteau, André Lemelin, qui sont conteurs et conteuses, mais qui aussi font beaucoup de choses dans le domaine du conte. Enfin, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais vous les connaissez sûrement mieux que moi. C'est-à-dire qu'ils organisent des festivals, ils s'occupent d'éditions, ils s'occupent de programmer des conteurs. Enfin, ils font tous beaucoup de choses dans le domaine du conte. Et dans ce dossier sur le conte, il sera évidemment question du travail des forces vives des contes aujourd'hui. Alors, on parlera abondamment de ce qu'ils font par ailleurs. Donc, le sujet un petit peu provocateur, je dois dire, que j'ai choisi cette fois-ci, c'est « Conter ou donner un show ». Alors, ce communiqué qui a paru un petit peu partout, que j'ai envoyé aux participants, qui a été envoyé sur des listes de distribution, ce sujet, en fait, a été choisi pour essayer d'opposer, d'une part, ce qu'on peut appeler avec beaucoup de guillemets le conte traditionnel, c'est-à-dire le conte qui est plus grand que le conteur, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, le conte dont le conteur n'est un petit peu qu'un passeur, etc. D'une part, donc ce type de conte, et d'autre part, un conte qui s'approche du théâtre, c'est-à-dire qui emprunte des techniques du théâtre, la musique, les effets sonores, enfin, on peut penser à plein de choses, ou alors qui se rapproche du rire, de l'humour. Alors j'ai un petit peu résumé ça par une phrase choc qui a déjà fait réagir certaines personnes qui nous ont écrit. L'humour omniprésent risque-t-il de contaminer le conte ou serait-il son sauveur? Alors ça c'est par rapport à l'humour. Par rapport au théâtre, on peut aussi s'interroger, est-ce que le conte devient théâtral, est-ce qu'il risque de se perdre dans cette voie, ou au contraire, il a des chances de se régénérer. Voilà. Donc, j'ai invité des conteurs et conteuses qui, j'espère, vont pouvoir prendre des points de vue différents, sinon opposés, afin que, peut-être, de la polémique jaillisse des étincelles, ou qui sait, la lumière. Alors, j'ai demandé à chaque invité d'ouvrir le bal en faisant un petit exposé de quelques minutes pour répondre aux principales questions qui sont contenues dans ce communiqué. Après quoi, j'essaierai d'animer cette discussion à la table. Et au bout d'une heure de discussion ici, bien évidemment, vous serez invité à y participer. Vous serez invité, vous aussi, à faire des commentaires ou poser des questions. Alors, je le disais, tout ça est enregistré. On a un micro magique là-bas qui va capter tout ce qui se dit dans cet espace. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. On n'a pas besoin de transporter non plus un micro sans fil. Voilà. Alors, on commence. Qui est-ce qui voudrait ouvrir le bal? Est-ce que les dames d'abord? Ou est-ce qu'il y a...
André et Yvan.
Non, Jean-Marc, il y a l'air...
Ah non, moi, je suis dans l'exploration expérimentale. Il faut mettre la chauve avant un peu. La tradition, allez, amusez-vous.
Bon, André, alors, qui veut se lancer? René.
Bon. Ben moi j'avais pensé peut-être commencer en racontant un tout petit peu la démarche que j'ai eue parce que j'ai aucune prétention à parler du conte. Je vais parler pour moi tout simplement. L'approche que j'ai eue, ça a été plutôt sous les bons conseils de Claudette Lheureux. Ça a été d'explorer le conte traditionnel pour commencer. Claudette m'avait dit tu devrais lire Les Mille et Une Nuits, les contes des frères Grimm. C'est un peu ce que j'ai fait, ben un peu beaucoup. J'ai aussi exploré les vieux monts comtés, donc différents recueils, des choses qui faisais un certain éventail du conte traditionnel. Ensuite, j'ai découvert aussi les contes coquins, qui étaient des contes traditionnels, mais puisés dans différentes traditions du monde. Alors, j'ai exploré ça pendant plusieurs années. Et puis, j'ai eu besoin, à un moment donné, au bout de peut-être 5 ans, j'ai eu besoin d'aller plus loin. Plus loin étant pas de manière à signifier que c'était limité la tradition orale, mais plutôt que je trouvais que la tradition orale était un peu dénaturée parce qu'on n'a accès à la tradition orale que par l'écrit. Et pour moi, le conte, c'est quelque chose de vivant. Donc, j'avais besoin d'aller rencontrer des gens pour qu'ils me parlent puis qu'ils me racontent des choses. Donc, c'est comme une autre façon d'aller chercher l'oralité. C'était pas dans la tradition, mais c'était dans l'histoire, la petite histoire, puis l'histoire avec un grand H aussi. Donc, j'ai rencontré des gens, ce qui fait que j'ai un peu ouvert les horizons du conte vers le récit de vie. Alors, c'est quelque chose qui m'a fascinée parce que, justement, c'était vivant. Autant quand j'écoutais les gens qui me parlaient, j'avais l'impression de vibrer, d'écouter quelque chose qui était palpable puis qui se rapprochait un petit peu plus de l'oralité, au sens où je l'entends. Puis, quand je me suis mis à raconter ces histoires-là, les récits de vie, bien sûr, ça demeure du récit de vie. C'est un petit peu adapté, modifié, arrangé avec la fée des contes. Donc, peut-être que ça se rapproche un peu du conte, peut-être que ça se rapproche du récit de vie davantage, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à le définir, mais pour moi, c'était l'important, c'était de vibrer sur un même diapason avec les gens, tant dans ma cueillette que dans le partage de la scène, en fait. Alors, est-ce que je suis une conteuse parce que je fais du conte ou parce que, ben, en fait, est-ce que ce que je fais, c'est du conte? Je ne suis pas certaine. Oui, non. C'est comme si pour moi, ce n'est pas important, cette question-là. J'irais même jusqu'à dire, c'est un peu provocateur, mais je pense que c'est le but de la chose, que le contenu n'a pas d'importance, à savoir que, pour moi, l'important, c'est de vibrer avec les gens. Si je regarde la démarche qui s'est poussée de plus en plus dans les dernières années, j'ai intégré, d'abord, il y a de la musique. Étienne, mon copain, m'accorde souvent à l'accordéon. m'accompagne à l'accordéon sur la scène, donc c'est ça, il y a souvent la musique. Il y a aussi des ambiances sonores qu'on est allé chercher. Par exemple, dans la mine, on est allé chercher des sons, des bruits ambiants. On a intégré ça. Je suis allée chercher les entrevues avec les gens. On a intégré le côté documentaire, si on peut dire, des petits extraits. Ça fait partie du spectacle. Il y a de l'éclairage, il y a un micro, il y a beaucoup de choses qui sont empruntées, je ne dirais pas au théâtre, je dirais plutôt à différentes disciplines, la musique étant, étant une discipline en tant que telle et non pas quelque chose qu'on a emprunté au théâtre. Alors, c'est un peu tout ça qui est intégré finalement dans un des spectacles que je présente. À mon avis, ça, ce sont des outils comme l'humour, comme la musique, comme en fait, tout ce qui est là, ce sont des outils. Et puis, c'est au service de mon métier. Est-ce qu'on est plus en présence d'un... En fait, c'est ça. La question, c'est compter ou donner un show. Je vais terminer avec ça. À mon avis, c'est impossible de ne pas donner un show quand on raconte une histoire. Parce que même si on est sur le bord du poêle à bois chez Madame Fréchette, dès que la personne a conscience, même pas obligé d'être un conteur, mais dès que quelqu'un a conscience qu'il détient la parole et que d'autres personnes écoutent, on ne raconte plus de la même manière. Donc, pour moi, raconter, c'est toujours donner un show. Puis, les choses qu'on utilise, les moyens qu'on utilise, ce sont des outils.
Bien. Merci. C'est très clair. Donc, compter, c'est toujours donner un show.
Stéphane Benito?
Je suis d'accord que compter, c'est toujours donner un show, mais je pense que ça dépend. Il faudrait définir qu'est-ce qu'on veut dire par show. Alors, je pense que quand on compte, on a l'attention de l'auditoire et c'est notre responsabilité de les amuser et d'être présent et qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas la même chose qu'un dialogue à une table de cuisine, par exemple. Par contre, je pense que tous les arts, on emprunte les uns aux autres. Alors, le conte, c'est sûr qu'il emprunte à la musique. Il emprunte au théâtre, il emprunte des fois, certains conteurs peuvent même emprunter à la danse, OK? Mais il demeure une spécificité à tous ces arts-là. Le conte a une spécificité qui est l'endroit où se passe le conte. Alors, le théâtre se passe sur scène. Les comédiens incarnent les personnages. Il y a des éclairages, il y a des costumes, il y a des objets. On sort de soi et on se perd dans le monde qui est sur la scène. Personnellement, je pense que la spécificité du conte, c'est que c'est le contraire. Le conte se passe dans l'imaginaire de l'auditoire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très, très spécifique au conte. Donc, le conteur suggère. Le conteur suggère des personnages, suggère des décors, suggère des costumes, mais c'est nous qui les créons. Et je pense qu'il n'y a aucune représentation qui peut recréer de façon aussi spectaculaire ce que mon imaginaire peut faire. Alors, le film 3 ne sera jamais aussi bon que quelqu'un qui me raconte l'histoire de l'Iliade ou de l'Odyssée. Et je pense que le conte a cette magie-là. Et le danger, lorsqu'on commence à utiliser les outils du théâtre, alors si par exemple on utilise des éclairages, on utilise des objets, on incarne les personnages en tant que conteur, en tant que conteuse, mais de façon vraiment très, très, très présente sur scène, le danger, c'est qu'on bloque. On bloque le processus imaginaire qui est spécifique au conte et on rentre dans le monde du théâtre sans avoir les moyens. Parce que le théâtre a quand même des gros, gros moyens. Il y a des metteurs en scène, il y a des éclairagistes, il y a des musiciens, il y a plusieurs comédiens. Alors que le conteur crée avec très, très peu de moyens un monde imaginaire intérieur. Donc, je pense que c'est ça le danger. Moi, je me positionne pas de façon absolument radicale. J'ai adoré ton show en passant, René, là. Mais je te poserai la question, ton spectacle que tu as fait, Les Hommes de Pioche, c'est vrai que tu as beaucoup d'éclairage, mais je sais que tu l'as fait par moments dans des endroits où peut-être tu n'avais pas accès à ces techniques-là. Hein. Je pense que tu as fait par moments ce spectacle-là, des moments où peut-être que tu as dû couper peut-être certains éléments qui demandaient une amplification, qui demandaient... plus tard, peut-être qu'on pourrait parler de ça. En quoi est-ce que ça a changé le spectacle pour toi de les enlever ou de ne pas les enlever? Parce que je pense que le conteur, sa spécificité, c'est justement que ça se passe pas sur scène. Donc, on n'a pas besoin... On n'a pas besoin d'éclairage, on n'a pas besoin de costumes, on n'a pas besoin d'incarner des personnages, on fait autre chose. Donc, je trouve que ça se rapproche presque plus de la littérature orale que du théâtre, dans ce sens-là, le conte. Parce que dans la littérature, c'est pareil, l'objet, le livre, hein, il n'est pas très important. Donc, lorsqu'on lit le livre, ça ne se passe pas dans le livre, ça se passe. Ça se passe dans notre imaginaire, alors qu'au théâtre, ça se passe sur scène. Alors moi, cette spécificité-là, je l'aime et je voudrais qu'on la conserve. Et le danger, c'est qu'on la perde en utilisant trop les techniques du théâtre.
Bon, merci. Alors je sens qu'il y a déjà le ferment de discussion, de choses avec lesquelles on pourrait être d'accord ou pas d'accord. Alors André Lemelin, si on parlait de vous comme d'un défenseur du conte traditionnel, est-ce que ce serait une insulte ou bien,
Non.
Il porte avec fierté cette...
Alors moi, je vais vous lire mon texte parce que j'ai pris le temps de mettre un texte par écrit. En fait... Mon questionnement, c'est de comprendre le fondement du conte. Et à partir de ça, j'essaie d'y réfléchir. Alors, aujourd'hui, on avait trois questions, finalement, hein, dans la table ronde, dans la rencontre. On avait aussi la première question, c'était plus le côté folklorique, l'évolution, que je mets de côté. Ensuite, il y a l'humour. Je vais plus, moi, m'attarder à la théâtralisation. Alors, ce que j'en dis, donc la question, pour ceux qui ne l'ont pas lu, hein, c'est le recours aux techniques théâtrales dans l'acte de conter. Texte, mise en scène, etc., serait-il de nos jours une perversion du conte ou une simple évolution naturelle du genre, due à l'urbanisation? Alors, ce que j'en dis, question complexe en apparence simple, qui a comme conséquence de raccourcir la réponse en laissant supposer qu'une évolution est toujours une continuité, alors que c'est souvent une rupture. Surtout lorsqu'on s'attaque à la forme. Et lorsqu'il y a rupture, il y a altération. L'altération, je suis allé faire un tour dans le dictionnaire et j'ai trouvé quelque chose d'Aristote qui a le mérite d'être très simple et très clair à comprendre. Pour lui, l'altération, c'est un changement dans la catégorie de qualité. L'altération, c'est le fait de devenir ou de rendre autre. Alors, quand on altère le conte, on le rend autre. C'est ce que ça veut dire. Le fait de changer la forme du conte en fait autre chose. Ça, c'est mon argumentation. Mon point n'est pas de dire que c'est mieux ou que c'est pire, Ce que j'affirme, c'est qu'en changeant la forme du conte, nous l'altérons, nous en faisons autre chose, tout en continuant d'appeler ça du conte. Mais au juste, de quel conte parlons-nous? Hein, le conte de tradition orale, le conte littéraire, le conte spectacle, le conte théâtral, ou tous ces contes confondus? Car en posant la question du conte comme générique, le conte, on évacue, puis on occulte aussi, par le fait même, sa forme orale. Alors, soyons plus précis et posons la question directement. Est-ce que le conte théâtral est une évolution du conte de tradition orale? En tout cas, c'est la question que je me pose dans le paragraphe que j'ai lu. En tout cas, je la réarticule de cette façon-là. Et là, je dis, mais évidemment, encore là, faudrait-il définir c'est quoi le théâtre? Évidemment, il n'y a déjà personne qui s'entend pour le définir. Ça fait que de la question, je retiens deux éléments. Je retiens le texte préalablement écrit et la mise en scène. Et c'est aussi, je crois, avec mon expérience du conte contemporain, du conte tel qu'il se déroule, ces deux variables qui sont quand même très importantes dans le conte qui se passe entre autres à Montréal et partout ailleurs, évidemment. Alors, je commence avec une comparaison, une question qui est une comparaison. Est-ce que le fait de dire, de slammer, de chuchoter les paroles d'une chanson fait de nous un chanteur? Et évidemment, la réponse est simple, c'est non. Alors, la question que je pose ensuite, pourquoi le fait de dire un conte ferait-il de nous automatiquement un conteur? C'est la forme qui est de chanter qui fait le chanteur, comme c'est la forme de conter qui fait le conteur. Et si on veut changer la forme de conter, ici, on veut la changer, donc cette forme-là, la forme de conter, la théâtraliser, la faire évoluer. Pour comprendre en quoi et comment le changement de la forme, la rupture affecte le conte, il faut donc être en mesure de comprendre la forme du conte oral que l'on veut faire évoluer. Mais quelle est donc cette forme, cette spécificité, cette propriété du conte oral? Et j'ai déjà proposé une définition du conte de tradition orale qui était un pas pour moi à la réponse. Et cette définition, je vous la donne, c'est quelque chose qui est très simple. Donc, le conteur de tradition orale est cette personne qui a entendu un conte, en fait, qui l'a retenu, qui l'a mémorisé par répétition orale et qui l'a transformé en canevas sur lequel elle peut broder ses mots. Ce sur quoi nous renseigne cette définition, c'est qu'un conteur traditionnel apprend par cœur un canevas de conte, le souvenir du conte entendu, par répétition orale. En le répétant, il le reconstitue, c'est-à-dire qu'il le refait par addition et soustraction, et à la fin, il se retrouve avec une réappropriation. Le conte est ainsi prêt à être confronté. Confronté, conté. C'est-à-dire de se mettre face aux gens en cherchant à se situer, à s'évaluer, à prendre sa propre mesure. Et le bonus de cette manière-là, étant que la mise en bouche est déjà assurée puisque le travail a été fait de façon orale, oralement. Quant au conteur interprète, comme dans auteur, compositeur, interprète, donc l'écriture de texte, la composition de musique et l'interprétation vocale et scénique, donc, quant au conteur interprète, il apprend par cœur textuellement un texte, je le fais par exprès pour être redondant, et ensuite ou pendant, il se le met en bouche, et ensuite le rend vivant par divers procédés, images, émotions, souvenirs. Lorsqu'un conteur traditionnel mémorise son conte par répétition orale, cette manière fait que son conte n'est jamais totalement fini et reste ouvert au changement. Car le conteur, celui-ci, n'a pas mémorisé des mots, mais des images, un plan, un canevas. Dans le cas du conteur interprète qui apprend textuellement son conte, bien, son conte est fixé, arrêté, identique. L'un met des mots sur des images, l'autre met des images sur des mots. L'un est devant son conte, l'autre est derrière son texte. Bon, voilà, le canevas est remplacé par le texte, mise en scène. Et la mise en scène, bien, ce qui se passe, c'est qu'on change la soirée de conte en spectacle de conte. En installant une mise en scène, c'est-à-dire un déroulement où le contenu et la forme sont décidés et fixés à l'avance. En transformant la soirée de conte naturelle, brodage des contes, changement dans le pacing, changement improvisé, impromptu dans la soirée, en spectacle prédéfini, reproductible et représentable, on transforme le rapport entre le conteur et le public. Le conteur qui était en relation avec le public lors d'une soirée de conte devient quelqu'un qui est en représentation devant le public lors d'un spectacle. C'est ce même genre de division, mais beaucoup plus palpable, qu'on va retrouver entre la danse traditionnelle ou folklorique et la danse moderne, contemporaine ou artistique ou institutionnelle. Dans la première danse, les gens dansent entre eux, ou du moins ils en ont la possibilité, ils participent à la danse. Dans le second cas, Les gens regardent les danseurs danser devant eux. Dans un cas, les gens sont actifs, dans l'autre, ils sont passifs. De la même manière, entre quand le canevas ouvert pour un texte fixé et la soirée variable en spectacle prédéfini, c'est plus qu'une manière d'apprendre et de compter que l'on transforme. C'est l'essence même du conte oral qui est affectée par cette altération de la forme. Donc, elle change notre rapport avec les autres. D'avec les gens que nous étions, nous passons devant eux. Dans une soirée de conte, et là je rejoins Stéphanie quand tu parlais de le théâtre se passe sur la scène, le conte se passe dans l'imaginaire. Donc, dans une soirée de conte, tous sont dans la même pièce. Dans un spectacle théâtralisé, les uns sont sur la scène, les autres dans la salle. Et voilà que le rapport ludique du conte se transforme tout à coup en rapport de classe. Les uns sont acteurs, les autres sont spectateurs. Les uns agissent, les autres regardent, les uns gouvernent, les autres sont gouvernés. En changeant la forme relationnelle du conte, en représentation, on change notre rapport aux gens, notre rapport au monde et notre rapport à la vie. En changeant la forme du conte oral, nous l'avons altéré, nous en avons fait autre chose. Alors, est-ce encore du conte de tradition orale? Je ne crois pas. Est-ce encore du conte? Peut-être. Évolution ou perversion? Je vous laisse répondre.
Bon, merci beaucoup André. Il y a quelque chose à quoi je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais je voudrais vous demander de ne pas enregistrer tout ce qui se dit, s'il vous plaît.
Ce ne sera pas diffusé, ça doit...
Non, s'il vous plaît, non. Parce que ça va paraître dans la revue Jeu, ensuite ce sera mis en ligne sur Radio Spirale, vous aurez l'intégrale. Alors on préfère que ce soit ça qui soit diffusé. Ok? Merci. Donc je vous demanderai de ne pas l'enregistrer.
Voilà.
Merci. Comme au cinéma, comme au théâtre. On demande aux gens
c'est
de ne pas enregistrer.
Quelqu'un qui s'apprête à écrire un article sur l'événement.
Oui, mais non, s'il vous plaît. Mais vous pouvez prendre des notes, on vous encourage à prendre des notes. Merci. Alors, Jean-Marc Massy, donc, est-ce que ton point de vue est très différent de ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant?
Ben, disons que, puis ça, c'est la beauté, je trouve, dans le conte, en ce moment au Québec, c'est qu'il n'y a pas dans la pratique... Dans le festival de contes, il n'y a pas un clivage entre les conteurs traditionnels et les conteurs de création urbain, tout ça. Ça se mélange et puis ça va, ça vient. Il n'y a pas la bataille des anciens et des modernes en tant que telle. Il y a prise de position, il y a des différences et le dialogue est toujours là. Ce qui m'amène à dire que la définition que donne André, qui, pour moi, est bien articulé, bien argumenté. La rhétorique d'André ne m'a pas semblé faire preuve de mauvaise foi, loin de là. Pose un jalon qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il pose une définition, je ne sais plus comment dire, une définition pure du conte, une définition stricto sensu, une définition de ce que devrait être le conte, parce que je ne suis pas sûr que si on prend tous ces éléments-là, qu'on va trouver bien des conteurs dans la salle ici et à l'extérieur. Pour moi, c'est un acte fondateur parce que quand on demandait aux gens de définir le conte, il y avait des définitions de bons sentiments, mais il manquait de chair autour de l'os. Donc, André amène ça. Cela étant dit, un repère, une limite, une délimitation est faite pour être transgressée. C'est humain, c'est inévitable. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que les conteurs fassent, puis ça fait quelques années qu'André a amené ça, ça fait une commotion là, par le milieu du conte. Tout le monde, je compte-tu, il venait me voir, je compte-tu. J'ai dit, sais-tu, moi? Mais je dis, va voir André. Mais.
Non!
Ah, c'était tu facile, vois, André, désolé.
Bureau, là.
blague à part. C'est le fun parce que ce que ça amène, c'est de dire, mais sais-tu ce que tu fais? Conteurs et conteuses, savez-vous ce que vous êtes, ce que vous faites? Et cette définition-là, hein, que ses forces, ses faiblesses, ben, au moins nous permet ça. Il y a quelque chose là, d'opérationnel. À partir de là, moi, ce que je dis, c'est que dans toute forme d'expression, il est nécessaire d'avoir une définition. Je ne dirais pas classique, conservatrice, une définition qui délimite. Okay? Par contre, si on se mettait à vouloir tous tendre vers cette définition du conte, je ne pense pas que c'est ce que André pourrait nous dire tantôt, si on voulait tous aller vers ça et respecter ça en tout point, eh bien là, on va arriver à ne pas laisser place à ce que j'appelle l'expérimentation et l'exploratoire. Pourquoi le conte n'aurait pas droit à ça et le théâtre et la musique et la danse? On parle de théâtre expérimental, on va parler de danse, bon, en ce moment, on parle de danse atypique. Donc, ben, je me dis, si le conte
est assez fort dans ses bottines, et là, il faut se poser la question, si le conte est assez solide et commence à avoir une identité, okay, dans sa pratique et dans sa théorisation, ben, il ne devrait pas y avoir de problème. On peut avoir du conte urbain, on peut avoir du conte qui ouf, qui vient dans le théâtre, qui passe par la musique. Et pour moi, c'est sain. Si on ne se laisse pas cette porte-là ouverte, eh bien, pour moi, le conte va devenir un folklore qui rime avec la mort, et le conte ne sera pas ce qu'il a toujours été, selon moi, un patrimoine vivant. Et quand on dit vie, eh bien, le vivant va aller partout. La nature a horreur du vide, fait que le conte va se promener partout, quitte à ne plus être du conte. Et je ferai là-dessus, je mettrai un bémol sur la théâtralisation du conte. À ce que je cherche, le théâtre n'a pas le monopole de la scène. Il a une expertise, hein, qui s'étale sur des siècles, voire des millénaires. Mais le théâtre n'a pas le monopole du conte, de la scène. Sur la scène, on a des musiciens, on a des danseurs. Même un peintre qui arrive comme ça puis qui décide de faire du body art ou les installations qu'on va trouver conceptuelles à un moment donné, où tu ne sais plus si c'est un artiste qui se met en scène, s'il fait de la sculpture, de l'art optique. Le théâtre n'a pas le monopole de la scène. Et pour moi, ça veut dire que la scène est ouverte à tout, y compris au conte, avec le risque. Les risques et les dangers que cela implique. Pour moi, monter sur une scène, ça n'implique pas qu'on va nécessairement faire du théâtre. Le fait d'utiliser de l'éclairage, le fait de trouver sa place dans l'espace, c'est pas propre au théâtre, ça. Donc, parlons du danger de la scénographie. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'est-il encore possible de compter et d'être dans une parole sur, sous ou dans le canevas, sur scène, devant 300 personnes? Eh bien, là, selon la définition d'André, non. C'est clair, net et précis, je dois être honnête, non. Alors, il faut voir ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Et moi, quand on me dit, quand Stéphanie a amené un truc très intéressant, le conte suggère, je ne vais pas plaquer les choses, je dois laisser les gens imager. Il faut faire attention parce que le conteur, effectivement, se passe de l'écran. Ces mots vont faire écran dans la tête de l'autre. Mais il y a le danger que le simple conte qui va suivre la définition d'André vienne parasiter quand même l'image que va se faire le spectateur du personnage dont je parle, du lieu, parce que plus je décris et plus j'en mets, moins je laisse d'espace à mon auditeur. Eh bien, le danger vaut là aussi, au même titre qu'il vaut que quand je monte sur scène et que j'utilise l'éclairage de telle manière que je ne fais que redoubler ce que je dis. Il y a dire et il y a faire. À un moment donné, bon, ça en choque certains qui me disent que ça fait partie de la tradition, mais moi, je suis plus capable de celui qui fait « Et il cognait à la porte. » C'est pas nécessaire, calvaire. Dis-le ou fais-le, tu m'apportes rien. Oh, on faisait ça dans le temps, mais oui, en 2009, on peut-tu se poser la question d'un esthétisme qui est peut-être autre? Les spectateurs ont vu, ont entendu. T'sais? Et je me dis que quand je viens sur scène, si j'utilise la lumière pour évoquer, pour suggérer, pour peut-être même avoir à me passer de certains mots, à aller vers un conte minimaliste, pourquoi pas? Et si l'éclairage me permet ça, de faire l'économie de mots, en faisant l'économie de mots, j'agrandis la capacité à imager de la personne dans la salle. C'est pas vrai que c'est nécessairement un obstacle, et je vais terminer là-dessus, ouais. Ce n'est pas vrai, si tant est que l'on ne donne pas le monopole de la scène au théâtre. Je pense que c'est là où le débat, à un moment donné, dérape.
Bien, merci. Alors, je pense qu'on a deux points de vue assez opposés. D'ailleurs, vous avez bien fait de vous asseoir comme ça aux deux extrêmes.
Oui. Est-ce que c'est possible de savoir si vous auriez à nous proposer une définition du théâtre?
Écoutez, dans la revue, ça fait 32 ans qu'on cherche une définition du théâtre. On en a proposé beaucoup. Alors, peut-être tout à l'heure, on pourra en parler.
Dans le cadre ici.
D'accord. Enfin, je pourrais vous en proposer plusieurs, mais je pense que là, en ce moment, on va rester dans le conte. Donc, si j'ai bien compris, tu as parlé d'une évolution qu'apporte l'expérimentation, hein, et que tu as dit que c'est une évolution nécessaire, justement, pour le conte, comme pour le théâtre, d'ailleurs, il est important d'expérimenter. Tu ne vois pas un danger là-dedans. Tu vois un danger dans la scénographie, alors que vous avez parlé du mot danger, vous avez été la première à employer ce mot. Vous voyez un danger dans le jeu, hein? Donc je pense que là on parle pas seulement de la scène, mais on parle du jeu. Alors est-ce que vous avez
réagir? Moi, en passant, je suis vraiment d'accord avec Jean-Marc. L'éclairage peut des fois, par exemple, ou le jeu, ok, du conteur. Le conteur a certainement certains outils qui appartiennent aussi au théâtre, hein, c'est sûr. Dans un conte, il y a des personnages, et un bon conteur, on le sait tous, ils vont suggérer le personnage avec une expression du visage, avec un geste, avec une voix qui va venir du théâtre. Donc c'est sûr que le jeu, il est présent dans le conte. Le danger, si ça occupe tellement de place que ça nous ferme notre imaginaire. Et donc, je suis vraiment d'accord avec Jean-Marc quand il dit que l'éclairage peut, des fois, suggérer quelque chose qui, justement, fait qu'on ne sera pas obligé d'utiliser des mots. Mais c'est dangereux. Il faut faire très attention. Il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que cet éclairage rajoute vraiment quelque chose à ce conte? Et moi, je dirais qu'à peu près 95% du temps, la réponse, elle est non.
Mais lui, il semble plutôt craindre la scénographie, c'est-à-dire un décor. Un conteur qui arriverait dans un décor, pour lui...
Un décor ou éclairage ou ambiance sonore, etc. Moi, je veux bien qu'on en mette. Moi, je ne suis pas contre. Moi, je pense que l'art, là, c'est comme un continuum, là. Puis, ce n'est pas vrai qu'on va tous rester là, là. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont explorer, qui vont découvrir des nouvelles choses. Ça va être magnifique. Mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et je pense que très souvent, ce ne l'est pas. C'est comme on va au théâtre, ces temps-ci, il me semble qu'on ne peut pas aller au théâtre sans qu'il y ait une scène vidéo, un écran vidéo avec... il me semble qu'à chaque fois que je vais au théâtre, est-ce que vous voyez ça? Il y a toujours des écrans vidéo. Et puis, on ne les regarde même pas, les écrans vidéo. Ils ne nous donnent rien, ça ne nous rajoute rien. Mais je pense que le conteur, maintenant, qui se veut urbain, qui se veut moderne, ou en tout cas en Europe, parce qu'il y a des mises en scène très théâtralisées, s'il pense qu'il faut qu'il rajoute ces trucs-là, puis je pense que c'est pas OK. Maintenant, j'aimerais bien que Renée parle de ça, parce qu'elle l'a fait, elle. Tu as utilisé, toi, des éclairages, des effets sonores très délicats, très subtils. Mais quand est-ce que c'est nécessaire dans le conte? C'est ça la question que je me pose.
Est-ce que vous posez cette question?
Pour moi, ça s'est posé différemment, à savoir que les histoires que j'avais trouvées me faisaient vibrer énormément, puis j'avais envie d'explorer plus loin ce que j'étais capable de faire. Alors, je me suis entourée d'une équipe, d'un metteur en scène.
Oui, bien. Bien, alors, bonjour, bienvenue à cette entrée libre de jeu. Je vous présente Michel Vaïs, rédacteur en chef de la revue Jeu. Donc, ces discussions publiques que nous appelons les entrées libres de jeu ont lieu depuis déjà de nombreuses années. C'est la 55e, en fait, aujourd'hui. Elles font toujours l'objet d'un article dans la revue. Cette fois-ci, ce sera dans un dossier consacré au conte et au conteur, qui va paraître dans notre numéro de juin. Et elles sont aussi enregistrées pour être diffusées sur Internet, sur Radio Spirale.